Hallucinations et léthargie. On ne me ramena pas à mon ancienne cellule. Je fus transporté dans une nouvelle prison. C'était une reproduction exacte de la première, avec cette différence que, dans ce nouveau lieu de détention, je ne voyais plus âme qui vive même à l'heure des repas. Ma porte ne s'ouvrait jamais. Toutes mes relations avec le personnel de la prison avaient lieu à travers un étroit guichet. Deux fois par jour, il s'ouvrait, et deux grosses mains rouges me tendaient une écuelle contenant ma pitance quotidienne. Après cela, j'entendais le grincement du judas s'ouvrant et se refermant. Cela se faisait pour voir si j'avais fini de manger. Quand les mains rouges s'étaient convaincues que mon dîner était terminé, elles rouvraient le guichet, se tendaient vers moi en silence, reprenant mon écuelle vide et se retirait en arrière comme les tentacules d'un polype gigantesque. Après le genre de vie que j'avais mené à l'infirmerie, il me parut qu'ici j'étais dans une tombe. Quand je pensais à Gradchev, mon cœur se serrait, je pleurais. Mais ses larmes étaient loin de me soulager. Je commençais dès les premiers jours à me voir entouré de figures vivantes. Cela m'arrivait toujours lorsque j'étais couché, jamais quand j'étais debout. Les personnages qui m'apparaissaient me semblaient être entourés de grands cadres, comme ceux que les photographes mettent en montre à leur porte. Et je ne voyais que les personnes que j'avais connues à l'hôpital de la prison. Elles étaient si pleines de vie que souvent j'avais la velléité de toucher leurs habits. Leurs regards me contemplaient et me faisaient baisser les yeux, car je pouvais à peine les supporter. Mais dès que mes paupières s'abaissaient, mes visions s'évanouissaient pour faire place à d'autres ou bien changeaient à vue d'œil en adoptant de nouvelles formes. Ceci arrivait le plus souvent à l'apparition d'un infirmier que j'avais eu en aversion à l'hôpital. Il était tout couvert d'ulcères à moitié cicatrisés et de boutons. Un jour, je l'avais vu m'apportant une bouillie de sarrasin et y trempant le doigt à plusieurs reprises pour le lécher et le tremper encore dans l'écuelle. J'avais des nausées chaque fois que cet homme apparaissait parmi mes visions. Alors il arrivait que le fantôme se transformait. Je pouvais suivre tous les détails de cette transformation. Cela commençait toujours par le nez. Il devenait nébuleux. Le tout prenait une teinte gris pâle d'où sortait une nouvelle face vivante qui fixait ses regards sur moi. C'était toujours les yeux que je voyais apparaître avant autre chose. Il régnait un vrai silence de mort dans ma cellule. Je n'entendais même plus les pas du factionnaire dans le couloir, dont les dalles étaient recouvertes d'un épais tapis de verdure. Quand une mouche entrait par le vasistas toujours ouvert de ma fenêtre et se mettait à bourdonner, le bruit qu'elle faisait semblait me rompre le tympan comme le ferait un fort roulement de tambour. Comme exprès, il venait beaucoup de mouches dans ma cellule. Elles étaient grosses, velues, bleues. Elles me tourmentaient tellement que je les poursuivais pendant des heures pour les prendre et les tuer. Lorsque je me couchais, j'entendais distinctement les battements de mon cœur. Je m'endormais souvent en y prêtant l'oreille, et alors je rêvais que je causais avec mon voisin à l'aide des coups frappés à la muraille. B-K-S, B-K-S, ah oui, je comprends, cela veut dire barcasse. Oui, on va sur l'eau avec les chaloupes. Ma cellule, c'est la mer bleue, les rivages en sont jaunes, ils sont formés par les murs. La chaloupe a une voile et un aviron. Mon voisin y est assis. Il passe et repasse près du mur. Il passe et repasse. Il attend. Qu'attends-tu, mon pauvre voisin? BKS, BKS, ah, que c'est bon, me dis-je, je ne suis plus aussi seul. BKS, BKS, mais qu'as-tu, mon cher voisin? m'écriai-je parfois à haute voix en rêve. Et cela m'éveillait, je me retournais d'un autre côté, et j'entendais toujours, sans fin, BKS, BKS. Pendant le jour, je courais d'un côté à l'autre de ma cellule, mes pantoufles criaient. Ce bruit, par une bizarrerie inexplicable, me rappelait les refrains de chansons obscènes que j'avais entendus vociférer par des ivrognes attardés dans la rue. Alors je m'efforce de penser à autre chose. Mais en vain, je tâche de faire cesser le dégoût que j'éprouve. Je veux me persuader que ces chants ne sont que grotesques, naïfs peut-être. Mais tout à coup, une voix de fausset, aiguë et fêlée en même temps, me les crie aux oreilles en accentuant avec ironie les passages les plus ignobles. Alors j'essayais de souffrir en silence, mais soudain un nouvel accès d'impatience me saisissait. Je jetai mes pantoufles de côté avec fureur et me mettais à courir pieds nus sur les dalles froides du plancher. Ceci faisait passer les hallucinations de Louis. Une fois, comme je courais ainsi pieds nus, je crus voir quelque chose à travers le mur de la prison. C'était quelque chose ou quelqu'un accroupi au dehors, près du rebord de la fenêtre qui était pourtant à près de 3 mètres du sol. Ma nouvelle vision ressemblait à un juif polonais. Il me guettait, il était roux, il portait son costume national, et près de lui se tenait un petit garçon tout barbouillé de crasse et qui portait aussi le lobardac et la calotte juive. Et chaque fois que je tournais le dos à la fenêtre, le vieux juif avançait vivement la tête et, me montrant du doigt à son fils, il disait « Le voilà, le voilà !» J'oubliais tout et ne m'occupais plus pendant quelque temps qu'à guetter le juif de mon côté. Je me retournais parfois avec vivacité, et il me semblait voir chaque fois un peu de son cafetan qu'il n'avait pas eu le temps de retirer. Cette apparition n'eut lieu qu'une fois, mais les hallucinations de Louis que me causaient les grincements du cuir de mes pantoufles durèrent au moins pendant 2 mois, et avec le temps, elles disparurent elles aussi. Plus tard, le bruit que je produisais en marchant m'impatientait, mais c'était tout. Je l'entendais et ne voyais plus rien de particulier. Ce fut la dernière lutte qu'eut à soutenir mon être moral. Après cela vint un temps d'engourdissement, ou, si je puis m'exprimer ainsi, de pétrification intellectuelle. Maintenant, lorsque j'essaie de me rappeler ce que j'ai éprouvé pendant mon emprisonnement, je ne me souviens que des moments où j'ai souffert de surexcitation et je puis à peu près en préciser la durée. Pour ce qui est de mon temps de torpeur, je n'aurais jamais pu dire moi-même quelle fut sa durée. À lui, était-ce 1 mois, 1 an, 20 ans? C'était une vie sans horizon. C'était une mer sans rivage, où on ne peut dire ce qu'on a devant soi, une lieu où sans. Je me sentais presque heureux de mon abrutissement. Je trouvais des distractions, je m'inventais des occupations. Un jour, je me posais le problème de compter les rayures du papier qui tapissait le mur de ma cellule. Ce travail exigea plusieurs semaines. Je me levais tard et après avoir déjeuné, je me mettais à l'ouvrage. Quand cela m'ennuyait, j'inventais d'autres choses. J'arrachais une fois des morceaux de papier de tapisserie et m'en fis un jeu de cartes dont je traçais les dessins avec mon sang. Lorsque mes cartes furent prêtes, je m'amusais à me dire la bonne aventure avec et les sujets sur lesquels j'interrogeais l'avenir était en général très peu compliqué et se rapportait le plus souvent à mon dîner. Je voulais savoir s'il y aurait du borsch ou du chichi tel ou tel jour, si le pain serait enfin bon ou à demi calciné comme à l'ordinaire, si le directeur entrerait chez moi ou non. D'autres fois, surtout la nuit, Je me mettais à calculer combien de minutes et de secondes j'avais déjà passé en prison. Lorsqu'après des efforts inouïs, je parvenais à un résultat quelconque, je l'inscrivais sur le mur, toujours à l'aide de mon sang. Oh, j'en avais à ma disposition autant et plus que je n'en aurais voulu. Mes gencives étaient enflées et un sang scorbutique en coulait tous les jours en abondance. Pour user de mes cartes, il fallait dépenser beaucoup de ruse et d'ingéniosité d'esprit. Il fallait m'arrêter de manière à ce que le factionnaire ne pût rien voir, car dès qu'il aurait remarqué quoi que ce soit d'insolite, il aurait fait son rapport au directeur et mon jeu, qui m'était presque devenu cher, aurait été confisqué. Pouvais-je me passer de mes cartes, si pleines de sagesse et de vie, et qui m'avaient déjà fait tant de prédictions complètement exactes à propos de mon dîner? Qu'arriverait-il, me disais-je parfois, si les mains rouges découvraient mes cartes? Elles me les prendraient, les jetteraient au tas d'ordures avec mépris. Et pourtant, il y a de mon sang là. Oh, que je m'ennuierais sans mon jeu. Et la pensée d'une pareille perte me remplissait de terreur. Je rassemblais alors mes cartes avec hâte et les cachais prudemment sous les pieds du lit ou sous le matelas, suivant que le plancher avait été lavé depuis plus ou moins longtemps. Je m'amusais à me prédire l'avenir après dîner. La matinée se passait à compter les rayures du papier de la tapisserie, à calculer le nombre de minutes passées en prison, à inspecter mes bas et mes pantoufles, à me chausser, à me déchausser, ce qui me causait infiniment de plaisir. Vers 11 heures, j'avais faim. Alors j'avais recours à mes cartes pour savoir d'avance ce qu'il y aurait à dîner. Mais la faim devenait de plus en plus forte. Par moments, je cessais d'en avoir conscience et ne sentais plus qu'une sorte d'inquiétude physique qui m'obligeait à courir dans ma cellule comme une bête fauve en cage. Et quelquefois, je comptais le nombre de pas que je faisais. Mais n'entends-je pas un bruit dans le couloir? Un sentiment de bien-être commence à m'envahir. Les guichets des cellules voisines grincent en s'ouvrant. Ah, bienheureux voisin, ils dînent déjà. Une vapeur chaude et parfumée s'élève de leur borche. Ah, je suis sûr qu'aujourd'hui on nous donnera mon borche aigre favori. C'est étonnant comme j'aime tout ce qui est acide maintenant. Et le pain sera pour sûr très bon. Le grincement des guichets devient de plus en plus proche. Encore un à côté, et on va me donner à manger. Mais qu'est-ce? On paraît vouloir m'oublier aujourd'hui. Comment serait-ce possible qu'on me laisse sans dîner? Je m'approche de la porte et je cherche une fente par où je pourrais voir dans le couloir. Je me soulève sur la pointe des pieds, je colle l'oreille à la serrure, mais hélas, je ne vois ni n'entends rien. Je m'efforce de me hausser encore et encore. Soudain, le guichet s'ouvre. Venez au bain. Je n'ai pas dîné. Venez, venez. Ah, j'ai oublié que c'est vendredi aujourd'hui et qu'il y a juste un mois que je n'ai pas été au bain. Si on m'avait donné à manger d'abord, quel plaisir ce bain ne m'aurait-il pas procuré? Comme il fait bon au bain et surtout lorsqu'on prend une bonne douche froide, cela vous réveille à la vie. Une pluie fraîche vous inonde la tête et le visage. Ah, que cela fait du bien. Mais je commence à avoir froid. Brrr. J'ai faim. Je n'aurai aucun plaisir au bain et après il faudra de nouveau un mois entier avant d'y aller. Nous passons par le préau. Ce n'est plus une voûte de granit que j'ai au-dessus de moi, mais un ciel bleu. Qu'il est haut. Personne n'a jamais contemplé un ciel pareil. Dans ma cellule, si je mettais mon tabouret sur le lit et si je montais dessus, j'atteindrais au plafond avec la main. Comme il est haut ce ciel, et comme il fait bon dehors. La salle de bain est obscure et remplie d'une buée chaude et épaisse qui m'oblige à fermer les yeux en rentrant. Quand je les rouvre, je vois à travers la vapeur le banachik qui m'apporte une cuvette remplie d'eau tiède. Il y plonge la main pour s'assurer qu'elle n'est pas trop chaude. Car si je m'échaudais, gare au directeur. Je prends l'eau et me mets auprès de la fenêtre. Je fais semblant de me laver, mais je regarde le ciel de tous mes yeux. Un oiseau passe, un point noir sur un fond d'azur. Il disparaît. Un papillon voltige, un autre le suit. Les voilà réunis. Ils se reposent sur un brin d'herbe venu dans un interstice entre deux pierres. Ils remuent lentement les ailes. « Voulez-vous prendre une douche ?» me dit le balachik, se préparant à m'inonder d'eau fraîche. Je m'approche de l'appareil et me voilà ruisselant de la tête aux pieds. Et mon estomac qui crie famine pendant tout cela. Oh, si je pouvais assouvir la faim qui ronge mes entrailles. Je suis de nouveau rentré dans ma cellule. Après avoir joui un instant de la lumière du soleil, je me retrouve dans les ténèbres, je ne distingue presque rien. Mon écuelle est sur la table, mais hélas, tout est froid. J'apaise ma faim et je me prends à songer. Si je pouvais avoir maintenant une belle pastèque toute rose et sucrée, j'en mangerais bien une entière à moi seul, j'en mangerais deux, trois, si l'on voulait me rendre la liberté. Je sais bien ce que je ferais. J'irais au bazar, j'y choisirais une belle pastèque, avec une entaille pour montrer sa qualité, et pour 5 copecks, je m'en donnerais. Oh, ce serait une autre espèce de dîner que celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce dîner ? Fais-je en jetant un regard à mon écuelle. Et en même temps, je souris en tapinois d'un large sourire de béatitude, en me remettant à manger. Ainsi se passait ma vie. J'avais oublié tout ce qui existait au dehors de la prison. Je n'en rêvais même plus. Tous mes songes se réduisaient à me voir étendu sur le lit, à contempler la voûte de la cellule. Ou bien je voyais qu'on ne voulait pas me conduire au bain, qu'on avait décidé de me nourrir que de pain à moitié cuit. Je me réveillais alors, couvert d'une sueur d'angoisse, et puis, revenu complètement à moi, je m'écriais « Le Seigneur en soit loué, ce n'était qu'un rêve. On va m'apporter à dîner aujourd'hui comme à l'ordinaire. » Je ne pensais plus à rien, ni à personne. J'avais désappris à ressentir quoi que ce fût. Les souffrances, la mort même de ceux qui m'étaient jadis les plus chers, ne m'auraient causé aucune émotion. Pendant que la vie s'éteignait ainsi dans mon âme, je ne remarquais pas dès l'abord que chaque soir j'avais de la fièvre et qu'une toux opiniâtre me tourmentait constamment. Avec le temps, je ne pus plus me coucher comme d'habitude. J'étais obligé de soulever mon matelas de manière à pouvoir passer la nuit à moitié assis. Je crachais le sang. Je savais très bien ce que cela voulait dire, mais je n'en étais pas autrement impressionné. Je pensais apathiquement à ce qui m'attendait. Je me disais qu'une nuit, le sang viendrait m'étouffer en bouillonnant, et que je n'aurais plus la force de le rendre étant trop affaibli. Puis je voyais les mains rouges me tendant en vain mon écuelle pleine du matin. Puis c'était un grand tumulte. Le directeur et les soldats de service arrivent. Le factionnaire à la porte abaisse sa baïonnette, tout danger de ma part étant passé. Puis on me roule dans un drap pour m'emporter dans les cellules des morts. Mes bras et mes jambes pendent inertes à mes côtés. Ma tête ballotte lourdement pendant le trajet. Puis, arrivé dans le caveau, on me jette sur une table et ma tête frappe les planches avec un retentissement lourd et lugubre. Après cela, ma cellule est nettoyée de fond en comble et on trouve mon jeu de cartes. Le directeur accable d'injures le Starloge et lui, le malheureux, quelle peine ne se donnait-il pas pourtant en m'espionnant jour et nuit. Liberté, pouvant à peine soutenir ma tête qui retombait sur ma poitrine malade, je vaguais un soir dans ma cellule en tremblant de fièvre. Tout à coup, j'entendis derrière ma porte la voix du tonnerre du directeur. « Dépêche-toi de les apporter, racaille !» La porte s'ouvre avec fracas, et le directeur, tout rayonnant, m'annonce que je vais être mis en liberté. Tout de suite, à l'instant même, fais-je d'une voix telle que mon geôlier se met à sourire avec condescendance. « Eh oui, oui, à l'instant même. Voici vos habits, signez-moi reçus. » Un quart d'heure plus tard, je n'avais plus que le ciel au-dessus de moi. La première chose que j'éprouvai fut une sensation de froid. L'hiver était en plein. Il tombait une pluie fine et glacée. Je vis passer un Islochlik dont la hordelle trottait d'une manière paresseuse. Personne dans la rue. Cet imbécile de directeur qui me jette dehors à 7 heures et par un froid pareil. Oh, ne pouvait-il pas attendre jusqu'au matin? Et si quelqu'un m'avait dit en ce moment de retourner à la prison, ben j'y serais rentré de bon gré pour continuer de rêver aux pastèques mûres et juteuses. Mais personne ne me fit rien de pareil. J'avais entendu se refermer derrière moi l'énorme porte de la prison. J'avais entendu le grincement de la serrure et des verrous qu'on repoussait. C'était fini. J'étais libre. La baleine de Jonas m'avait rejeté à terre parmi mes semblables. Mes semblables. Mais à qui ressemblais-je, moi? Lorsque je retrouvais dans une chambre chaude et bien éclairée, quand je vis de bons meubles, des glaces, des fleurs, tout s'embrouilla dans ma tête. Pour la première fois depuis 4 ans, je revoyais des enfants, mais ils fuyaient à mon approche pour se cacher et me regarder de loin avec terreur et curiosité. Je ne reconnaissais plus ma voix qui était devenue rauque et dure. J'avais déjà appris à parler. Je commençais une phrase pour m'arrêter court. Oubliant les mots les plus usités, je ne savais plus les noms de ma sœur ni de mon frère. La première chose que je fis entendre, ce fut des plaintes et des récriminations contre le directeur, les mains rouges, la mauvaise qualité de la nourriture en prison. Et à moi, on me parlait de nouvelles luttes, d'espérance, de bonheur à venir. Pendant ce temps, je me disais, « Bon, mais pourquoi est-on venu troubler ma paix, à moi qui déjà me trouvais bien, même là ?»« Te voilà enfin de retour parmi nous !» me répétait pour la 100e fois Varvara Nikolovna. Puis, soudain, elle se précipita vers le piano et des accords follement joyeux retentirent. Elle était vraiment heureuse de me revoir. J'écoutais comme dans un rêve, ma tête bourdonnait. Tout à coup, je sentis quelque chose de chaud me monter à la gorge. Je toussais, un flot de sang s'échappa de ma bouche. C'est étrange que depuis ce temps, je me sens très bien. Je suis gai et dispo. L'espérance ne m'abandonne plus. Mes poumons sont en très mauvais état, je le sais, mais je sais aussi que l'air natal me rendra la santé. Ah, si je pouvais être au pays. Mais il faut gagner un peu de force avant d'y retourner, car autrement, ma vie ferait trop de peine à ma mère. Pauvre mère, comme elle m'attend. Pavlovski. Nous n'avons qu'un mot à ajouter au récit qu'on vient de lire. L'auteur, après être resté 4 années en prison, fut jugé et condamné à 6 mois de détention. On lui en fit grâce en considération des 4 années de prison qu'il avait déjà subies, et il fut mis en liberté. Mais, fort peu de temps après, il fut arrêté de nouveau, et comme beaucoup d'autres jeunes gens, envoyé en exil dans une petite ville du nord de la Russie. S'y trouvant sans moyen d'existence, et ne prévoyant aucune amélioration de son sort, il prit le parti de s'enfuir et le mit à exécution. Fin.